Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B. Aujourd'hui, une émission qui va intégralement se passer à Saint-Malo, où nous allons y retrouver messieurs Grun et Runberg, qui venaient nous présenter un magnifique space opéra intitulé Space Relic Hunter, aux éditions Daniel Maguen. Ça a été notre première rencontre à Quai des Bulles. C'était plutôt cool de commencer avec eux parce que on a bien kiffé ce Space Opera. C'est quoi Space Relic Hunter? Il faut imaginer qu'après une guerre de religion interplanétaire, quatre autoproclamés dieux, le Grand Quatuor, et créer un empire qui règne comme ça sur tout un ensemble de galaxies. Ils ont instauré une théocratie donc et éliminé toutes les autres religions. Et il y a toujours des adeptes de ces anciens dieux qui sont à la recherche de reliques. Et là apparaissent nos deux personnages principaux, à savoir Xia, une humaine plutôt portée sur la boisson, mais on saura pourquoi. Et Little Mercure, un alien masqué, mais on saura pourquoi. Qui vont être engagés par un mystérieux commanditaire pour retrouver justement une relique. Ça se vend très cher, les reliques des anciennes religions. Et pour cela, on va leur adjoindre un troisième personnage, Vitellius, un ex-centurion des Légions Divines, c'est-à-dire c'est un peu l'armée de ce grand quatuor qui lui permet donc de gérer son empire, c'est sa force de frappe. Et notre Vitellius, il a déserté et il est adjoint à nos deux personnages, ce qui va donner l'occasion de pas mal de situations cocasses. Au menu donc des aliens, de l'action, des planètes et beaucoup de couleurs, vraiment monsieur Grun nous offre spectacle de toute beauté dans ce space opéra et une histoire, bien menée par monsieur Runberg, rappelez-vous Orbital et rappelez-vous celle du Odon Mars. Donc c'est pas des débutants dans la matière. Allez, direction Saint-Malo, on va les retrouver.
That's the West Carrion. Where do I go after 12 laps around the sun in this town with the people it traps? Bitches and roaches come and go with these. When's my cue? One more round, one last fry, one last freeze. Lately I've noticed that I am away, more than home, more than not, in the zones where I stay. Just like Elvis in the army, eating dinner from a can, saying a prayer for rock and roll. Is it gone? Do they miss me? Talking so much shit. Said his goodbyes when I paid him his cost. Scratch up card, can of beer. He said thanks and got lost. Which would he forget if he had the choice? Is it the look on my face or the sound of my voice? Just like Joyce down in Trieste, squinting at the Grand Canal. Suffering myth, guess I've thrown in the towel. Debt, dust, and memories to collect and trade to the man on the fan and in the room where I lay. Stretching my limbs out to
I can't see, 'cause the earth's surface bends. So let's plant a seed that grows high and devours what is yours, what is mine, till what's left is just ours.
Commençons cette année, cette nouvelle saison de Quénébule 2023, en compagnie de Monsieur Sylvain Runeberg. Bonjour.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Et de Monsieur Grün, bonjour.
Bonjour.
Ouais, très content de vous recevoir.
Pour la sortie de l'album Space Relic Hunters, paru aux éditions Daniel Magen.
Alors c'est la première fois effectivement qu'on vous rencontre. Alors on va peut-être commencer avec une question banale, mais qui nous intéresse, puisque finalement on parle de BD parce qu'on n'a jamais réussi à s'y mettre et à percer. C'est justement comment vous avez franchi le pas, parce que je crois qu'il y en avait un qui avait fait des études d'histoire, il aurait pu être enseignant, un beau métier, celui que nous faisons. Et l'autre était dans les jeux vidéo.
Oui, entre autres.
Entre autres, ouais. Donc vous aviez vraiment des perspectives devant vous énormes, et vous avez choisi de venir au livre illustré, à la bande dessinée, et ça nous intéresse. Comment avez-vous basculé dans le 9e art ?
Alors moi j'ai toujours lu de la bande dessinée, parce qu'en fait, d'un père marseillais et d'une maman belge, je suis né à Tournai, qui est...
Pays de la bière et de la bande dessinée.
Et de la bande dessinée, hein. C'était là où les éditions Casterman historiquement se trouvaient. Donc moi j'ai grandi entouré de bande dessinée, donc j'ai toujours lu, pas que de la bande dessinée d'ailleurs, du roman aussi, pas mal de choses. Donc, sur le média en lui-même, moi j'ai grandi avec, en fait, et j'ai jamais cessé de lire de la bande dessinée. En revanche, je suis devenu auteur de bande dessinée par accident, au sens premier du terme, parce qu'effectivement j'ai fait des études d'histoire, où j'ai une maîtrise d'histoire politique, et ensuite j'ai commencé à travailler en tant que libraire bande dessinée dans une librairie qui s'appelait la Bulle Noire à Aix-en-Provence, qui était une des librairies historiques en France, une des premières librairies de bande dessinée à avoir existé. Moi j'y travaillais dans les années 90, après avoir terminé mes études. Et ensuite, j'ai intégré une maison d'édition, les Humanoïdes Associés. Donc, j'ai commencé à travailler sur Paris. Et je ne me destinais pas du tout à devenir auteur. Mais il se trouve que j'ai eu un accident qui m'a immobilisé plusieurs mois. Et que je me suis retrouvé en rééducation pour réapprendre à marcher, ce genre de détails. Bref, je passe là-dessus. Et je me suis retrouvé donc à 32 ans, 33 ans chez mes parents. Parce que c'était plus facile pour faire venir une infirmière, etc. Puisque j'étais pas autonome. Et comme c'était l'époque où il y avait déjà Internet, mais c'était quand même un peu lent, et où en fait je m'ennuyais un peu sur mon lit, en fait, même si je faisais de plus en plus de tours un peu plus loin autour de la maison avec les béquilles. Et en fait, j'ai commencé à écrire des premières amorces de scénarios. Pour passer le temps, puisque je me disais, tiens, ben voilà, là j'ai 3 mois quand même, où j'ai quand même du temps libre devant moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Avant, j'avais plutôt écrit des articles, j'avais écrit des mémoires, mais rien à voir avec de la fiction. Quand je travaillais en édition, je travaillais aussi sur ce qu'on appelait les pitchs pour présenter en fait aux commerciaux les résumés d'albums, etc. Mais ça n'a toujours rien à voir en fait avec l'écriture de fiction. Et donc j'ai commencé à écrire comme ça, et j'y ai pris goût. Et quand j'ai réintégré ma place dans l'édition, en fait, j'ai pas arrêté. Et 2 ans plus tard, en fait, j'ai commencé à présenter quelques projets, pas chez l'éditeur où je travaillais, en fait, mais chez d'autres éditeurs. Et il se trouve qu'en 4 ou 5 mois, j'ai eu 4 projets de signés. Et j'ai décidé de passer le cap directement. Donc j'ai quitté mon poste et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer parce que ça me plaît beaucoup. Mmh. Et voilà, maintenant, ça fait 22 ans que je suis scénariste professionnel.
Et on vous envie.
Et comment est-ce que, avant de passer à Monsieur Grün, on finit, vous savez, dans la foulée, est-ce que il y a des œuvres en matière de bande dessinée qui vous ont particulièrement marqué plus jeune, ou même par exemple quand vous étiez sur votre lit de souffrance là pendant ces 3 mois?
J'ai été inspiré par beaucoup d'auteurs, en fait, que ce soit la bande dessinée, au cinéma, en série télévisée. Je dirais qu'en bande dessinée, si j'avais à donner 2 noms, déjà, il y a évidemment Alan Moore. En fait, c'est Alan Moore, c'est un des auteurs qui a commencé à moi-même me faire questionner sur ce qu'était le scénario en bande dessinée, en fait.
Un incontournable, ouais.
Voilà. Il y a Luc Braunschweig aussi, qui d'ailleurs est aussi inspiré par Alan Moore, je pense, Luc, qui est un ami qui, je me souviens, du Pouvoir des innocents, ça avait marqué, en fait, quand j'avais lu cette bande dessinée. voilà, c'est ceux-là en fait qui,
les auteurs qui vous ont marqué,
qui en tout cas m'ont fait m'intéresser stricto sensu au scénario en fait. Après il y a plein de personnes qui m'ont inspiré en fin de compte, mais je sais que c'est à la lecture de ces deux auteurs où la première fois je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il y a un scénario en bande dessinée, comment ça marche et comment ça fonctionne. Voilà.
Ah oui, des sacrées références, ouais. Et si on se tourne vers le dessinateur ?
Bah, le dessinateur a toujours dessiné, donc en fait c'est
dans
c'est
les marges une... des cahiers à l'école.
Oui, toujours. Donc j'étais très bien vu par mes profs en général. Donc je faisais beaucoup de dessins à l'école, voilà. Donc non, en fait c'est une passion, oui, d'enfant, un rêve d'enfant de devenir dessinateur de BD. Mais j'ai pas fait ça tout de suite. En fait, j'ai passé un diplôme d'art graphique aux Beaux-Arts, voilà, classique, où j'ai appris un métier dans un premier temps et ça m'a permis de travailler très rapidement, de rentrer dans le monde professionnel, ce qui est déjà bien de pouvoir vivre du dessin et de la création. Et fort de ce diplôme, eh bien, j'ai commencé à intégrer des structures dans l'édition pour enfants, où j'étais directeur éditorial de deux magazines pour enfants, donc on sortait deux mensuels par mois. Et ensuite, j'ai travaillé dans la publicité et dans le freelance, voilà, en général, où j'avais des commandes d'illustration, choses comme ça. Et après, mon vrai gros travail, ça a été le jeu vidéo. Donc, j'ai intégré la boîte Callisto, la société Callisto à Bordeaux, où là, j'ai fait mes armes et j'ai appris vraiment un métier très, très spécial. Et cette boîte, malheureusement, n'a pas perduré. Donc, il a fallu se raccrocher à quelque chose et j'avais déjà des amis qui étaient dans la bande dessinée qui m'avaient un peu montré la voie en me disant ton travail conviendrait bien aussi à la bande dessinée. Donc je m'y suis intéressé et j'ai trouvé beaucoup de connexions entre le jeu vidéo et la bande dessinée. Et c'est vrai que le passage a été plus qu'évident. Voilà. Après c'est des rencontres qui ont fait que j'ai pu rapidement, je dirais, signé, parce que j'ai signé quand même chez Dargo avec un scénariste qui est toujours connu, hein, qui s'appelle Eric Corberan, voilà, où en fait il cherchait à l'époque un dessinateur pour illustrer un scénario qui était vendu chez Dargo. Il s'appelait La Conjuration d'Opale, une BD qui se passe au 16e siècle, voilà, la Renaissance, donc une BD d'époque. Et là, j'ai dit « aïe ». Là, je me suis dit « oulala, je commence très fort ». Et ça a été le cas, donc ça a été effectivement très dur pour moi parce que commencer déjà, c'est un gros éditeur avec énormément de pression, un scénariste déjà aguerri. Et moi qui démarrais, je me suis dit « oulala, ça va être très très dur ». Effectivement, ça a été très dur, mais ça m'a permis d'apprendre le métier très rapidement, de progresser très rapidement. Et finalement, ça a été la bonne école. Voilà. Et c'était pas non plus une thématique qui me séduisait, mais j'ai quand même signé. Je me suis dit, c'est une chance incroyable de pouvoir rentrer par la grande porte avec déjà un scénariste connu. Et donc j'ai saisi l'opportunité et finalement j'ai fait mes armes sur cette première série. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué bien sûr en faisant d'autres petits boulots à côté. Hein. Voilà, parce qu'au début, c'est difficile financièrement. Donc, j'ai travaillé dans la pub, j'ai travaillé dans l'illustration, de temps en temps, freelance pour le jeu vidéo aussi. Et puis voilà, maintenant, j'arrive à en vivre correctement. Donc, et puis après, j'ai rencontré Sylvain par la suite et on a fait ce qu'on a fait. Voilà, donc c'est.
Et pareil, excusez-moi, même question pour monsieur Rüberg, comment la. Qu'est-ce qui vous a. Quels sont les auteurs qui vous ont marqué, les illustrateurs qui vous ont marqué
Alors, moi j'étais très, très comics américain à mes débuts, mais c'est vrai qu'un auteur, bon, ça ne va pas être très original. Je pense que Moebius a été un peu le déclencheur, outre tous les dessinateurs américains, bien sûr. Toute l'école américaine de Buscema, voilà, de Milton Caniff, tous ces dessinateurs qui ont marqué ces époques incroyables. Effectivement, Moebius a été, parce que j'étais très fantastique et très science-fiction, j'aimais bien ces univers, et Moebius était un petit peu pour moi reste un peu le père spirituel de cette bande dessinée moderne. Il a amené une grammaire très particulière, et pour moi c'est un peu le père de cette bande dessinée moderne. Voilà, après il y a eu Casa, effectivement, Rimnez, tout un tas d'auteurs qui m'ont, voilà, avec lesquels j'ai Mézières, bien sûr. Alors je vais pas citer tout le monde, mais je suis quand même bon public aussi, j'essaie de lire un peu de tout, j'aime des gens comme Book aussi, je trouve que c'est un dessinateur incroyable, Rossi, Voilà, et puis ça, aujourd'hui j'apprécie le travail de gens comme Marigny, Labiano, Taduc, qui sont des dessinateurs incroyables, qui sont un peu mes grands frères, voilà, et j'ai un profond respect pour leur travail.
Voilà. Ah, aussi vient de sortir un somptueux western, là, je viens d'offrir à un pote.
Oui, oui, incroyable.
Alors vous l'avez déjà un petit peu évoqué tous les deux, mais c'est vrai qu'on sent que la science-fiction, ou l'anticipation de la science-fiction, je ne sais pas quel terme vous préférez, c'est vraiment quelque chose que vous partagez. C'est un genre qui vous parle à tous les deux.
Oui, moi j'ai toujours été très attiré par la science-fiction. Donc moi je suis né en 1971, donc j'ai vécu le premier Star Wars, le premier Alien. La science-fiction qui passait assez régulièrement en télévision à l'époque aussi, par exemple la première version de Battlestar Galactica m'avait beaucoup marqué. D'ailleurs j'adore le reboot qui a été refait ensuite, qui est pour moi un modèle d'écriture justement. Il y avait évidemment l'émission Temps X. On parlait de science-fiction
sur la
le samedi après-midi. Donc ouais, la science-fiction, j'ai baigné très tôt dedans en fait. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Moi qui m'intéresse aussi beaucoup en fait à la politique au sens large du terme, la science-fiction pour moi ça a toujours été un miroir sur le futur pour mieux parler du présent aussi. Donc j'aime bien les œuvres qui ont cette approche là en fait. Donc j'aime beaucoup beaucoup de choses en science-fiction.
Et vous servir de la fiction pour délivrer un message politique, comme dans l'invasion des profanateurs de sépultures.
Oui, alors en fait, moi, c'est ce que. Alors, par exemple, j'aime beaucoup Ken Loach, mais j'ai pas du tout cette approche-là. Moi, si j'arrive à faire réfléchir les gens en les intéressant au travers d'une fiction, c'est déjà bien suffisant. Si j'ai à faire passer un message politique, en fait, j'ai tendance à le faire passer directement, ou je préfère écrire un essai, en fait, plutôt que de me cacher derrière une fiction pour le faire. Mais par contre, donner à réflexion, oui, ça c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire, en fait, à travers mes récits. Et donc, en ce sens-là, en général, ils sont très politiques. Mais c'est jamais vraiment pour faire passer ma vision des choses, même si je comprends qu'en filigrane, on peut apercevoir à peu près quelle est ma vision des choses, en fait. Après, moi, j'ai beaucoup d'estime pour les auteurs qui le font peut-être plus frontalement, mais en fait, c'est pas ma démarche, en tout cas.
Dans Relic Hunters, il y a quand même des critiques. Le crétin qui est dans la Légion de l'espace, comment l'espèce de dieu.
On va y venir. D'ailleurs, vous avez choisi.
Oui, tout à fait. Alors, je peux avoir aussi, dans les scénarios que j'écris, une approche critique sur certains sujets, mais j'essaye de pas exagérément faire porter ma voix en tant que personne. Quoi. Je préfère laisser les personnages vivre leur vie et puis le lectorat tirer leurs propres conclusions. En fait, voilà.
Vous avez choisi d'ailleurs, y a toujours les remerciements là, dans une des premières pages de chaque album, et vous avez choisi une citation de Ray Bradbury qui est assez intéressante.
Ouais, c'est Grun qui l'a choisi en fait, oui. J'y me retrouve tout de suite.
Alors, j'ai pas parlé justement de ma passion pour la science-fiction, mais bon là c'est un peu comme Sylvain, on est de la même année, 71, année incroyable. Et voilà.
Et donc trois autour de cette table.
Non, mais oui, passion. Voilà, moi je suis un grand fan de John Carpenter aussi. Voilà, bon, bref. Voilà. Et moi, ma passion de la science-fiction, elle est venue aussi de mon père qui lisait beaucoup de science-fiction. C'est lui qui m'a amené à lire les premiers romans de science-fiction avec Arthur Clarke, bien sûr, un des plus grands. Voilà, après Asimov, et effectivement, des grands récits de science-fiction. Et effectivement, j'ai tout de suite accroché. J'ai senti vraiment que là, j'avais possibilité de continuer avec le dessin. C'est des inspirations. Je dirais que les romans m'ont peut-être plus inspiré que la bande dessinée. Parce que là, la bande dessinée, c'est quand même quelque chose qui est un peu prémâché. Et là, bon, l'imagination ne travaille moins que quand, dans une lecture. Une lecture, ça me permet de m'évader complètement et d'imaginer les personnages. Quand j'ai lu Les Fondations de Asimov, j'avais déjà les personnages étaient là dans ma tête, les situations, enfin bref, voilà, c'est incroyable. Et donc bien sûr, pour en revenir à mes premiers amours de littérature, effectivement Ray Bradbury qui est plus un écrivain coup de cœur, un écrivain plus un poète de la science-fiction, voilà. C'est quelqu'un complètement à part aussi.
Oui, il a un ton.
Une écriture qui est quand même remarquable. Et donc de le citer, bien sûr, et de cette phrase aussi, oui, la science-fiction, elle est omniprésente et elle fait partie de nous. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, quand on voit aussi tous les récits, toutes les novellistes enfin, de l'époque, Philippe K. Dick et tout ça là, qui avaient écrit plein de choses et que l'on vit aujourd'hui, ce qui est incroyable, comme Sylvain a parlé d'un certain reflet qu'on a, le reflet on l'a actuellement, c'est-à-dire que ces gens-là étaient quelque part un peu visionnaires aussi.
Ah oui,
donc
oui, tout à fait,
c'est
tout
ça
tout
qui
fait.
Est important aussi. La science-fiction
aveugle de Philippe Joseph Farmer, avec une somptueuse couverture de Casa chez J'ai lu en deux tomes.
Oui,
on
oui,
voit
oui.
Une famille américaine qui mange devant la télé.
Ouais, c'est
tout est beau, tout est rouge.
C'est incroyable.
Et après, le deuxième tome, toujours avec Casa,
oui.
Tout est pourri. La gamine bouffe de la glace à la merde. Enfin, c'est épouvantable.
Oui.
Il parle des grands incendies qu'on voit maintenant se développer aux États-Unis, en Californie notamment, et cette odeur de feu qui arrive jusqu'en Europe. Mmh. Et quand cet été, on a eu les fumées des feux canadiens, j'ai repensé à ce putain de bouquin, je dis bordel. Et il a écrit son bouquin dans les années 60.
Oui, mais aujourd'hui, la philosophie, c'était une chose. Enfin voilà, les philosophes ont amené quelque chose, mais sans prétendre être un philosophe ou quelque chose comme ça, mais quelque chose comme. Enfin, la création permet aussi d'avoir ses visions. Si un artiste peut avoir très bien une vision, être visionnaire de quelque chose. Donc, dans la bande dessinée, je trouve qu'aujourd'hui, des thématiques sont abordées et peuvent prêter à réfléchir aussi. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui, même de n'importe quel type de bande dessinée, c'est amener des choses, discuter, faire réfléchir les gens aussi. C'est pas simplement une pure lecture, il y a aussi le côté réflexion. Et là, on l'a eu aussi pas mal dans On Mars, où on a fait une fin assez surprenante et justement où le lecteur faisait aussi sa propre synthèse des choses.
Effectivement, c'est quelque chose qui m'a influencé. Enfin, comme j'ai fait des études d'histoire, pour moi, comprendre, connaître le passé, c'est pouvoir comprendre le présent, se donner les moyens de le comprendre, mais appréhender le futur ou l'imaginer, c'est aussi un moyen d'éventuellement comprendre le présent et puis éventuellement essayer d'avoir un point d'ancrage pour orienter notre avenir, quelque part. Même si c'est pour montrer les voies à ne pas emprunter.
What if I say that I'll never surrender?
vous avez évoqué effectivement votre première collaboration 2017, On Mars, une trilogie, expérience de terraformation qui s'appuie sur une main d'œuvre pénitentiaire. Hyper fun. Hyper fun. Comment vous vous êtes rencontrés pour ce projet-là? L'association s'est faite comment?
Elle s'est faite via Daniel Magen, notre éditeur. Je vais laisser
En fait, moi, j'ai terminé Métronome. Oh, je vais faire court. Hein, voilà, donc j'ai terminé à Corbeyran et j'avais envie de travailler d'une manière différente. Voilà, la bande. Appréhender la BD différemment. Et donc, je me suis rapproché de Daniel Magen, avec qui je travaillais depuis une vingtaine d'années, qui m'achetait des originaux et qui avait créé sa boîte d'édition. Et avec un label de qualité qui était là. Et il me dit effectivement, tu as envie de faire quoi? J'ai envie de faire de la science-fiction. Il me dit, je peux te présenter plein de monde. Et puis je réfléchissais, et puis en fait je suis retombé sur un tome de Orbital.
Excellente série.
Et je me suis dit, mais attends, ce gars-là, il a fait un truc super bien, et je suis sûr que c'est un gars sympa. Donc j'ai dit, on s'est déjà contacté, je pense, par mail au début, et Daniel a fait l'entremetteur, c'est-à-dire qu'il nous a rapprochés, parce qu'à l'époque, Sylvain vivait sur Stockholm, donc c'est pas évident de se voir physiquement, donc en fait... Daniel nous a fait nous rencontrer sur Paris et voilà, on a commencé à parler de cette future collaboration, et presque en très peu de temps, on est tombé d'accord sur une façon de procéder et de collaborer. Puis voilà, finalement, ça s'est très vite enclenché.
Et vous avez... Alors, Space Relic Hunter, c'est pas tout à fait une continuité, parce qu'on n'est pas dans la même science-fiction. Là, on va être vraiment dans autre chose. Mais même s'il y a quelques... Allez, peut-être petits points communs. Il y avait une espèce de secte avec un gourou dans On Mars. Là, on est plus dans une théocratie, j'ai envie de dire. Il y avait déjà quelques petits trucs. Mais vous avez gardé le même fonctionnement, justement, On Mars. Ça a été facile après de... Pouf, on fait pareil...
On a gardé le même fonctionnement. Effectivement, On Mars est plus réaliste et plus sombre dans le ton, en fait, puisque ça parle de la conquête de Mars, de la colonisation de Mars, mais ça parle aussi de l'univers pénitentiaire, du sens de la peine, quels sont les effets lorsqu'on met des gens en prison pendant de très longues années. Et il y avait au sein de cette prison effectivement l'avènement d'une secte, donc il y avait ce côté sectaire qui était très présent dans le récit aussi. Sur Space Relic Hunter, en fait, on a voulu partir sur quelque chose qui reste de la science-fiction mais qui est complètement différent dans le ton, c'est-à-dire un ton qui est beaucoup plus léger. En apparence, en tout cas. Et moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc ça m'intéressait de m'y coller, en fait. Et c'était vraiment un beau challenge, parce que c'est pas du tout évident, en fait, d'écrire ce genre de récit-là. J'avais en termes de comparaison, il y a quelque chose que j'aime bien au cinéma, qui est Guardian of the Galaxy, et je trouve qu'ils réussissent très bien. Je voulais faire quelque chose dans cette lignée-là, dans le ton, en tout cas, parce que le récit n'a rien à voir non plus. Mais
je m'étais défini l'album comme un space opéra et en même temps un blockbuster, action, humour, dynamisme.
Oui. Guardian of the Galaxy.
c'est un peu les ingrédients. Après, quand on fait de la BD de genre, effectivement, il y a des codes. Et on essaie de respecter ces codes avec des vrais héros. Le retour du vrai héros, ça manque aujourd'hui. Finalement, cette bande dessinée qui a existé au Strophroid avec des vrais héros identifiables, avec des faire-valoir, des choses comme ça. Et c'est vrai que... Mais oui, mais c'est important.
On parlera des personnages. Oui. Il y en a un, c'est un sacré faire-valoir.
Donc voilà, c'est aussi un retour aussi à des choses qui nous ont marqué aussi anciennement, moi, avec Métal Hurlant. Pour citer cette période aussi où la science-fiction était omniprésente. Et c'est un peu aussi un hommage à tout ce qui a été fait.
Il y a un côté politique quand même, moi je trouve quand même, parce que peut-être que je vois le mal partout, mais en ces périodes troublées, vous voyez bien ce qui se passe, où au nom de Dieu, on se tripe joyeusement, alors que c'est pour le même, vous voyez. Relic Hunter, on va pas spoiler le livre, mais ça nous parle de reliques. De reliques, c'est des artefacts qui ont un trait, un lien à une religion.
Oui, tout à fait, il y a cet aspect-là, en fait. Il y a aussi un aspect politique dans même si le ton est plus humoristique, on parle effectivement d'une dictature religieuse qui est quand même plus ou moins inspiré par ce qu'a été l'Inquisition ou d'autres formes de dictatures religieuses durant l'histoire humaine, qui est une dictature religieuse qui interdit toute autre forme en fait de religion.
Voilà. Tout ça au nom de la paix.
Tout ça au nom de la paix. En fait, ça vient aussi. L'idée de base, plus que de l'Inquisition, vient aussi d'une période que j'ai étudiée pendant mes années à l'université. J'ai étudié le règne de Charlemagne, en fin de compte. Et Charlemagne, même si on a tendance...
Il a débrouillé les Saxons.
Si on a tendance à en faire parfois une figure plutôt sympathique, c'est en fait quelqu'un qui a mis l'Europe à feu et à sang et qui a essayé d'imposer par la brutalité et la violence la religion chrétienne sur tout le continent européen. Et effectivement, il y a un épisode qui n'est pas très connu, mais où effectivement, alors que les autres religions étaient interdites, on a découvert un petit groupe de Saxons, en fin de compte, en train d'honorer un de leurs dieux, et Charlemagne a fait égorger 4000 personnes en une journée, en signe de représailles. Si on retranspose ça aujourd'hui, on est plutôt
sous des lueurs bourrues, il était bourru.
Était plutôt rude. En plus, il a inventé l'école, et ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Il n'y a pas que le Saxon qui l'a fait chier.
C'est ce qu'il n'a pas inventé l'école, en fait. Il a obligé en fait, son aristocratie administrative à apprendre à lire et écrire.
C'est pas drôle. C'était vraiment quelqu'un de pas rigolo, c'est bien ce qu'on dit.
Mais bon, donc oui, il y a un aspect politique dans Space Relic Hunter, même si on est dans du space opéra, de l'aventure, et si effectivement on a essayé d'avoir justement des héros charismatiques, on a voulu aussi jouer avec certains clichés en les renversant ou en essayant de les renverser. En fait, je pense notamment à cette première scène où on voit une jolie femme un peu dévêtue qui est en train d'essayer de séduire un des personnages, où on pourrait croire, on va être un peu dans une espèce de bande dessinée. Teinté de sexisme, où en fait c'est pas du tout ça. En fait, on retourne la situation au bout de 3-4 pages. On a essayé de démarrer là-dessus en ayant en tête que le risque, c'est par exemple en librairie, quelqu'un, quand vous choisissez un livre, vous commencez à lire 2-3 planches et puis la personne pourrait s'arrêter en se disant non, j'ai pas envie de lire ça. Il faut aller jusqu'à la planche 4 pour voir qu'en fait on n'est pas dans ce qu'on pourrait croire en fin de compte. Mais c'est intéressant de jouer avec ces. C'est énorme là en fait.
On va revenir sur les personnages, mais effectivement la scène d'intro est assez chouette. Moi j'ai vu une scène à la Indiana Jones en fait, parce qu'à la fin tout le monde se tape dessus, ça court dans tous les sens. Et effectivement on va avoir donc un trio de chasseurs de reliques. En fait au début on a un duo, Xia et
Little Marker.
Voilà, et qui vont être renforcés pour un contrat avec un ancien légionnaire. Donc la Légion, c'est le bras armé de nos quatre dieux qui ont imposé leur dictature.
Leur dictature religieuse,
Et là où vous évoquez vos personnages, celui-là par exemple, moi il me fait beaucoup rire parce qu'il a tout pour, être la star du film. Il est grand, il est costaud, il a le cigare à la Hannibal dans l'Agence Touriste. Et en fait, non, il n'y a rien, quoi.
Bah, c'est que de la façade, justement.
C'est un boulet.
À la limite, on ne sait même pas pourquoi il est là, en fait.
Oui.
Si on regardait comme ça, on pourrait penser que c'est un personnage un peu à la Vince Diesel dans Pitch Black, alors qu'en fait, dans ce récit-là, le personnage à la Vince Diesel dans Pitch Black, c'est Xia.
Ouais.
C'est
le Vitellius, là, c'est un boulet. Enfin, il est malade dans le vaisseau.
Mais il ne conduit pas bien.
Mais elle conduit peut-être pas bien. Elle conduit un peu bourrée.
Je crois que j'aurais vomi aussi.
Et comment vous les avez justement, alors, comment vous les avez travaillés? Alors, vous avez voulu jouer avec les codes, on a compris, mais après, il faut les incarner, tout ça.
C'est un travail, c'est assez difficile à faire, en fait, comme type de bande dessinée. Parce qu'en fait, il faut que ça soit fluide.
Ouais, c'est vrai.
Il y a beaucoup d'action, il faut que ça soit dynamique, il faut qu'on soit pris
dans
un rythme. Il y a tout un univers à présenter qui est très riche et qui est un univers imaginaire. Donc, contrairement au Mars, où en fin de compte, on sait ce que c'est la planète Mars, on sait ce que c'est une prison, on n'a pas grand-chose à développer de ce côté-là. Là, on a dû en fait insérer une quantité d'informations assez grande en prenant le soin de ne pas faire de l'exposition et de ne pas ralentir le récit. Donc, en fait, c'est un type de récit qui. Si à la lecture, ça peut paraître assez léger, puis on est pris dans une aventure, et assez compliqué à construire scénaristiquement. En fait. Surtout qu'il y a de l'humour, donc ça aussi, c'est compliqué à gérer. En fait, je disais tout à l'heure que quelque part, c'est peut-être parfois plus facile d'écrire une histoire sombre parce qu'en fait on sait très bien ce que peut être la réaction d'un public par rapport à certains faits qui sont moralement condamnables et à moins de tomber sur quelqu'un qui est un psychopathe, on sait que les gens vont réagir d'une certaine manière. L'humour, en fait, vous n'êtes jamais sûr de ce que ça va donner, en fait. Et puis c'est quelque chose de très instinctif. Hein.
Ça peut même être très clivant.
Ça peut être très clivant. Et si ça ne marche pas, ça se voit tout de suite. Donc ça a été un récit assez compliqué à construire.
Ce que tu dis, c'est tout à fait ça, en fait. On Mars, on s'est mis quand même un cadre assez réaliste, finalement, avec un type de machine qui doit suivre les prisonniers, qui existent, qui sont des drones. Aujourd'hui, on les fait beaucoup plus évoluer. Il y a eu un peu d'imagination, mais là, on est dans Space Relic Hunter, on a un côté un peu plus exubérant. C'est-à-dire qu'on lâche la bride un peu à l'imaginaire. Et effectivement, on a de tout. Voilà. Mais il faut quand même maîtriser tout ça. Sinon ça part dans tous les sens et je dirais effectivement le travail a été beaucoup plus important sur Space Relic Hunter. Les personnages, ils sont passés par plusieurs caps aussi. Là on a le cap final, mais ils ont changé de peau, de couleur.
C'est ça, je m'interrogeais beaucoup parce que l'archétype du film de SF que j'aime pas, c'est, vous savez, ces films de SF où les martiens sont forcément humanoïdes, avec même s'ils ont une forme de nounours ou de... Mais là, vous avez essayé d'innover, vous avez fait de la recherche en exozoologie, je ne sais pas comment on fait.
Oui, non, je ne sais pas d'où ça me sort. Après, de la tête, hein, donc... Peut-être un personnage très torturé.
On peut les faire bizarres, mais il faut qu'elles tiennent debout quand même.
Oui, exactement. Mais ça fait partie, même quand on dessine un vaisseau, par exemple, moi je pars du principe que je place les réacteurs, je place le cockpit. Il faut que la machine, enfin le véhicule soit équilibré. On travaille un peu l'aérodynamisme. C'est-à-dire que et tout ça, je l'ai travaillé dans le jeu vidéo aussi. Cette expérience du jeu vidéo m'a permis d'avoir cette réflexion et cette maturité graphique pour pouvoir justement générer des univers. Et un personnage, c'est pareil, on le structure d'une telle manière pour le rendre, pour qu'il puisse tenir debout. Évidemment, s'il y a son centre de gravité, effectivement, les personnages araignées, il a fallu que je fasse plusieurs designs avant d'obtenir vraiment quelque chose de concret. Effectivement, je passais par plusieurs caps. Et je suis allé voir aussi, de voir ce qui a été fait aussi, parce que c'est toujours bien d'essayer de ne pas trop coller à des choses qui a de l'existant. Donc c'est ça aussi qui est difficile avec ces projets-là, parce qu'aujourd'hui, il y a eu énormément de visuels, de films, de jeux vidéo, d'arriver à sortir un univers comme Relic Hunter, Space Relic Hunter, c'est vraiment très compliqué, parce qu'on ne veut pas de redites.
Give me no switch. Come on, baby, and eat the rich. Come on.
Vous êtes très généreux avec nous, hein. Vous nous offrez des planètes, vous nous offrez de la végétation, des animaux. Non, mais c'est vrai, c'est une BD qui est très très riche. Enfin, quand vous dites le jeu vidéo a dû vous servir,
le roman, pareil, c'est dans Asimov, on voyage énormément. C'est très riche. C'est pas avare de quoi que ce soit d'ailleurs. Donc
c'est vrai qu'on voulait éviter aussi ce qui arrive souvent en fait, notamment en cinéma, voire en série télé, de retomber sur les mêmes designs qui reviennent un peu tout le temps. Quand on parle de créatures imaginaires, en fin de compte. Je pense qu'on a plus ou moins
réussi. Je pense que ça a été graphiquement le défi, même au niveau du scénario aussi, de représenter des personnages, c'était pas de tomber dans des clichés de personnages déjà maintes et maintes fois utilisés, exploités. Donc je pense que l'intérêt la finalité de ce projet, si c'est de proposer quelque chose... L'originalité non plus, on dit pas qu'on a fait quelque chose de totalement original, mais moi je pense qu'on a réussi à faire quelque chose un peu qui sort du lot. Et en tout cas on a essayé, je pense que...
Ce qui est intéressant aussi, c'est parce que j'ai vu deux ou trois fois la référence à Indiana Jones en fait dans des chroniques et et pour la petite histoire, en fait, jusqu'à la semaine dernière, je n'avais jamais vu aucun Indiana Jones.
Non.
Parce que je connais le personnage, mais j'étais passé à côté à l'époque. Et du coup, après, en grandissant, je ne les avais jamais regardés. Et mon fils de 7 ans, la semaine dernière, m'a fait une demande. « Papa, j'aimerais bien regarder Indiana Jones. » Et du coup, on a regardé tous les Indiana Jones, un par soir, la semaine dernière. Et maintenant, je comprends la référence à Indiana Jones.
La scène d'introduction dans le bar, pour moi, c'est la scène dans le cabaret en Chine, vous voyez, où il y a les danseuses et tout ça. Tout part, s'explose, et puis on court après la relique qui glisse à droite, à gauche.
En l'occurrence,
un gros bordel.
Je vois tout à fait pourquoi. Mais en l'occurrence, non, parce que quand j'ai écrit Space Relic Hunter, je n'avais jamais vu Indiana Jones. Oh,
ça, c'est fort.
Ça, c'est fort.
Ça, c'est de l'info.
Il y a des gens qui lui susurrent. Par contre, il y a quand même des petits clins d'œil. Par moment, il y a des petits...
Il y a notamment un gros clin d'œil à Star Wars.
Oui, on ne le dit pas, parce qu'on
est l'objet d'un jeu. La scène avec les divinités, quand elles volent comme ça, moi, j'ai vu du Marvel, personnellement.
Alors là, tout à fait. Moi, je suis fan de comics. Voilà, merde. J'écris d'ailleurs pour DC en Wonder Woman. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Et Grun aussi est de comics. Et clairement, la bataille finale, ce sont des super-héros. Hein.
Moi j'ai vu ça. Lui parle pas, lui. Il est trop vieux. Il est trop vieux.
C'est une scène de super-héros. Il vole, il se castagne en discutant.
Ce côté pouf paf . Et alors tu comprends.
C'est des romans en jupette, c'est très très bien aussi. Les scènes de combat chez Alix, vous n'imaginez pas la violence.
Et puis il y a plein de... Enfin, il y a des fois, je sais pas, c'est peut-être moi qui cherchais, mais par exemple, à un moment, il croise un vaisseau de croisière là. Moi, j'ai pensé au Pacific Princess, The Love Boat, parce que c'est le Galactic Princess.
Ah, mais tout à fait.
Besson l'a repris dans le cinquième élément aussi. Donc,
c'est vrai.
Il y a plein de clins d'œil comme ça.
C'est ça, oui, bien sûr.
Mais c'est marrant, c'est une grande salade composée en fait.
Oui, c'est une salade composée, mais
et
avec.
Vous avez fait votre mix.
Oui, ouais, puis,
et
des...
puis le genre s'y prête justement.
Parce ouais, que complètement.
C'est un space opéra, mais avec un petit côté humoristique. Donc on
n'a bon,
pas été avare en clin d'œil appuyé sur des choses qui nous ont marqué. Bon, Love Boat, c'est pas que j'ai spécialement aimé, mais en tout cas, ça, tout le monde connaît. Non, en fait.
Mais c'est amusant. Je suis content que vous me dites que c'est vrai parce que je me suis quand même dit putain, tu penses à ces trucs par moment. Il faut quand même ouais, qu'on dise aussi un truc, on rend hommage à ce dessin, à ces couleurs, parce que vraiment là, vous, pareil, hein, vous nous proposez vraiment tout, plein de créatures, de vaisseaux spatiaux, mais alors vos couleurs sont... Votre aquarelle, vous maîtrisez l'aquarelle.
Oh, je ne suis pas un puriste de l'aquarelle comme,
ah bah
comme Emmanuel Lepage.
C'est réussi parce que les scènes dans l'espace, mais même les...
Je dirais que je suis totalement autodidacte, la bande dessinée, j'y suis venu comme ça, voilà, avec la maturité.
Moi, je vous ai dit tout à l'heure, des fois je voyais du Casa, sincèrement, des fois
c'est certain. Chacun il voit ce qu'il veut, mais effectivement, moi c'est aussi des choses que j'ai lues étant jeune et
on subit
en quelque sorte construit, bien sûr. On subit.
Et est-ce que ces planches, du coup, c'est la particularité des éditions Magan, c'est que parfois on retrouve les planches en exposition, ça va être le cas pour votre ouvrage ?
Ah, mais l'exposition a déjà eu lieu.
Elle
a déjà eu lieu et Daniel fait des expositions à chaque sortie d'album.
Pour tous les albums qui sortent chez lui, il y a une exposition des planches originales.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et ces expositions aussi, moi j'ai eu des gens qui sont venus la voir et qui ont été conquis parce qu'ils m'ont dit grâce à vous, je me remets à lire de la science-fiction. Et ça me fait super plaisir. Parce que c'est des gens qui sont arrêtés à Metal Hurlant et qui n'ont plus lu de science-fiction parce qu'ils ne se sont pas retrouvés peut-être dans les productions actuelles. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Je me dis, finalement, il y a des gens qui ont repris la BD.
Il y a des vagues aussi. Par exemple, si on prend le cinéma de science-fiction américain, il y a eu les années 50-60, après un trou, après de nouveau, après avec la guerre des étoiles, etc., ça a été relancé, après un trou, ça revient avec d'autres choses.
Même dans la mode, hein, le Western
pour la BD,
va,
c'est
revient.
Là, on voit Metal Hurlant qui ressort, ça va peut-être permettre aussi à un public plus jeune de découvrir des choses à côté de quoi ils étaient passés, parce que dans le numéro 2, déjà, ils avaient republié plein de vieux matériel. Déjà.
Oui, mais c'est important. C'est du patrimoine pour toi, ça. C'est des choses qui ont été réalisées, dessinées, écrites et qui pour moi font partie du paysage quoi, de la création et c'est un peu incontournable aujourd'hui donc effectivement si les jeunes ne connaissent pas Metal Hurlant, je trouve que c'est bien de le ressortir et de leur dire t'as, à une époque on faisait ça.
Ouais, donc, tout à fait, c'est important d'avoir tu vois, un lien historique comme ça sur ce qui a pu être fait avant. Et puis nous, le côté easter eggs, alors je sais pas s'il y a une expression en français, mais easter eggs, c'est-à-dire les dans le cinéma, quand vous avez des références assumées qu'il faut trouver, en fait, il y en a pas mal. Pour citer encore, il y a Dark Crystal avec des créatures, il y a Oddworld et Apes, ce jeu vidéo.
J'y ai joué celui-là.
Qui reste une référence pour moi absolue dans le jeu vidéo.
Vous pouvez retrouver une référence dedans.
Je vais la rechercher, je ne l'avais pas vu celle-là, je n'y avais pas pensé. Et j'avais trouvé le Pacific Princess.
On se posait la question parce que l'heure tourne, mon bon Erwan. Et est-ce que ça sera vraiment un one shot ou on aura une sortie, on aura de nouveaux projets autour de ces personnages?
Alors nous, c'est vraiment un one shot, c'est un récit complet. Ensuite, on a un univers qui est tellement vaste et tellement dense que l'envie est là, en tout cas, de développer d'autres histoires dans le même univers à l'avenir, si le...
Reprendre le cadre de la théocratie...
Avec tout ça, ça fout un peu la merde dans l'Empire, quand même, je voudrais pas dire, mais...
Non, parce qu'à la fin, malheureusement...
On va pas spoiler, mais ils s'en tirent bien.
À la fin, ils sont obligés, il y a un choix qui a été fait.
Ouais. Mais va-t-il tenir, ce choix?
Il pourrait tenir, en tout cas.
Ils aiment bien les fins comme ça. Déjà, sur On Mars, c'était une fin comme ça.
Comment ça s'appelle déjà en anglais, une fin, ou que c'est ouvert?
Une frustration.
Ouais, mais ça c'est en français.
Elle est un peu plus ouverte la fin de Space Relic Hunter on Mars. Vraiment, on avait aussi envie de finir, mais une fin peut-être un peu plus fermée, parce qu'on voulait que ça soit une trilogie aussi, vraiment. Mais avec une réflexion de la part du lecteur.
Tout à fait, c'est
important.
Il y a une fin qui est fermée dans on Mars, c'est le cas de le dire, mais qui a un vrai rapport avec le contenu en fait.
Peut-être que vous avez d'autres projets quand même qui sont sur le feu. Alors on a, j'ai cru par Wonder Woman.
Alors moi je fais un Wonder Woman chez DC avec Mickey Montlot, effectivement. Uh-huh. Ça aussi c'était une de mes références, une de mes premières références en fait en science-fiction dans les années 70, Capitaine Flamme. Je reprends Capitaine Flamme.
J'avais la question quid de ce fameux Capitaine Flamme, monsieur Rudberg, parce que
septembre 2024. Il sort en septembre 2024.
Je suis trop vieux moi pour Capitaine Flamme.
Un rouquin, ça m'a marqué moi. Je me suis hyper identifié.
Voilà, donc je travaille sur ces projets. Je travaille sur. Alors, il y aura un troisième tome de Zaroff. On est en train de le commencer. La suite d'Orbital. On travaille sur Néphilim chez le Lombard. On est en train de terminer le tome 3. Je vais commencer le tome 3 d'Otlo chez Dupuis. Donc, il y a des séries télé, des jeux vidéo. Donc, je travaille sur pas mal de choses différentes.
Les scénaristes, ça peut faire plein de trucs. C'est pas comme les dessinateurs. Le dessinateur, il est calé derrière sa table.
Non. Moi, je profite de ma famille. Voilà. Je fais du sport. Effectivement, avec Sylvain, on a très envie de continuer. Donc on se laisse aussi le temps de faire mûrir les choses parce que c'est un choix aussi de travail, c'est d'avoir le meilleur scénario possible. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est d'avoir une très bonne histoire pour pouvoir après effectivement l'exploiter. Et on se laisse le temps d'y réfléchir parce que comme on collabore tous les deux, effectivement chacun a des idées. Et je pense que ça arrivera. Je pense que et continuer ensemble à bosser, bien sûr, c'est une envie. Alors moi, pour info, je prépare un nouveau projet avec ma femme, un projet de fantasy très européenne. Voilà, et qui sortira en 2025, peut-être avant, je ne sais pas pour l'instant.
Daniel Maguen. Ouais,
ah. Ouais. Ça s'appellera comment? Il y a un titre?
Les Hautes Herbes.
Les Hautes Herbes.
Excellent. Ouais. Et on devrait en entendre parler, puisque maintenant, Emmanuel Klein nous tient toujours au courant des productions Daniel Maguen. On n'en rate jamais une. Et on n'a pas intérêt d'ailleurs. Écoutez, on vous remercie d'avoir passé...
Débuté avec nous ce qu'est début 2023.
Ben, merci pour votre accueil.
Merci pour votre conversation.
Très gentil. Merci à vous.
Merci.
Et puis on vous dit à très bientôt en tout cas.
Merci. Au revoir.
bien voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Space Relic Hunter de messieurs Grün et Rönnberg aux éditions Daniel Magen, un grand space opéra digne de Star Wars. À la semaine prochaine, bonne lecture, quand on a le droit.